Amen. J'aimerais parler ce matin sur un mal pour un bien. Dans Genèse chapitre 13, verset 1er, nous lisons « Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. » au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi !» Parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, et je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et là il bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Abraham a donc quitté Ur en Chaldée pour ce long voyage, on estime à environ 1500 kilomètres, depuis Ur jusqu'à Canaan. Et il est parti avec son père, avec sa famille. Néanmoins, il y a eu cette grande halte à Charan où ils se sont installés. Et la Bible dit que c'est là que le père d'Abraham est mort. Il est mort sans aller jusqu'à l'objectif. L'objectif pour Térakh comme pour Abraham, c'était d'aller en Canaan. Mais nous nous rendons compte que certains ont bien démarré, mais pour une raison que nous ignorons, ils s'arrêtent en cours de route. Et ainsi, ils n'aboutissent pas jusqu'au pays promis. En tout cas, Abraham fait partie des croyants qui vont jusqu'au bout. Comme disait Marcel Roux, les chrétiens pentecôtistes sont des jusqu'au boutistes. Et Abraham, c'était un jusqu'au boutiste de la première heure. Et nous sommes à la suite d'Abraham. Et nous avons cette vision d'aller jusque dans la terre promise, jusque dans le pays promis. Nous ne nous arrêterons pas à Charan, mais nous irons jusqu'au bout pour le Seigneur. Mais j'ai remarqué que sitôt qu'Abraham arrive à Canaan, c'est quand même la terre promise, c'est quand même la belle promesse que Dieu a faite à lui et toute sa descendance. Mais le premier point qu'on voit, c'est que les Cananéens étaient là dans le pays. Et ça, c'est une petite déception pour Abraham, parce que quand Dieu nous donne quelque chose, on peut s'attendre à tout, que ce soit tout ficelé, tout accompli, qu'il n'y ait plus rien à faire. Mais Dieu lui donne un pays, mais il y a déjà des habitants dans le pays. Et il ne peut pas leur dire, bon ben poussez-vous, Dieu m'a donné le pays, maintenant je prends possession du pays, vous n'avez plus qu'à partir, c'est moi qui ai le pays. Il a tous les Cananéens qui sont là. C'est donc, ce sera des ennemis potentiels. Les Cananéens sont là, ça crée une petite déception pour Abraham, mais néanmoins, il continue à s'attacher à Dieu. Mes frères et sœurs, même quand nous sommes attachés au Seigneur, les problèmes se succèdent et il nous faut la grâce de Dieu à chaque fois. Là, il y avait les Cananéens. Un peu plus loin, la Bible dit qu'il y a une famine qui va survenir dans le pays. C'est pourtant le pays de Canaan, le pays de la promesse. Abraham doit fuir, il va partir en Égypte parce qu'il a peur pour sa vie. Et là-bas, il va se passer un petit épisode, mais qui va avoir une incidence, vous allez comprendre, dans la vie d'Abraham. Il n'y a pas de hasard. Mais quelquefois, les erreurs que nous faisons vont nous suivre quelque temps. Et ici, en Égypte, il a fait une erreur. Il a demandé à sa femme, « Tu vas dire que tu es ma sœur. » Parce qu'il craignait Abraham, il craignait pour sa vie. Déjà, il n'avait pas trop assez confiance en Dieu pour qu'il soit gardé. Il a dit, « Si jamais les Égyptiens te voient, ils vont te trouver belle, ils vont me tuer et ils vont te prendre pour femme. » Donc il a dit, « Tu vas dire, tu es ma sœur, et comme ça, on aura la vie tranquille. » Mais ce qui s'est passé, comme les gens croyaient que c'était sa sœur, c'est que Pharaon l'a pris dans son harem. Et il allait la prendre pour femme. Or, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. La Bible dit que Dieu a fait des... avant que Dieu arrête Pharaon, que Pharaon a fait des cadeaux à Abraham. Il lui a donné des troupeaux, il lui a donné des ânes, des brebis, des bœufs, toutes sortes d'animaux. Et il lui a donné des serviteurs et des servantes. Puis Abraham, il a tout récupéré. Seulement parmi les servantes qu'il y avait eu comme cadeau, nous en retrouverons une par la suite qui s'appelle Agar. Agar, elle vient de là, elle vient d'Égypte. Et vous allez voir que par la suite, ça va poser un petit problème avec la venue d'Ismaël et la descendance d'Ismaël, etc. Il a récupéré tous les cadeaux, mais Dieu est intervenu. Il a fait comprendre à Pharaon que ce n'était pas bon. Et Pharaon a convoqué Abraham et lui a dit, « Mais pourquoi m'as-tu menti? C'est ta femme, reprends-la. » Et ainsi, Abraham qui a fléchi à ce moment-là dans la foi, il n'a pas tenu ferme sur les valeurs de Dieu, eh bien, il n'a pas été intègre, il n'a pas été fidèle. Eh bien, à ce moment-là, il a été humilié et il a dû repartir, mais il a quand même gardé tous les cadeaux, et notamment les serviteurs, les servantes. Et c'est ainsi que ces choses-là, qui n'auraient jamais dû finalement faire de compromis, accepter, eh bien, vont le poursuivre quelques années après pour arriver jusqu'à la naissance d'Ismaël. C'est pourquoi on a toujours intérêt à bien régler les choses pour que tout soit net devant Dieu. Les problèmes se multiplient pour Abraham, les Cananéens sont là, une famine survient. Et puis, dernier problème, les bergers, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, les bergers se querellent, les bergers de Lot, les bergers d'Abraham maintenant se disputent. Alors, dans la vie chrétienne, c'est ainsi. Il y a des problèmes qui surviennent et il ne faut pas dire à chaque fois qu'un problème survient, mais Dieu m'a abandonné. Parce qu'en fait, Abraham était toujours avec Dieu. Mais il rencontrait des problèmes de tous les jours, des problèmes de la vie, famine, cananéens, des querelles, des difficultés. Ce n'est pas que Dieu l'a abandonné, mais c'est qu'il va apprendre à compter sur la grâce de Dieu au sein de l'épreuve. Et ça, il faut le comprendre, frères et sœurs. Nous sommes dans les épreuves de la vie. Nous avons réussi à triompher d'une épreuve, mais nous savons qu'il y aura d'autres difficultés qui vont survenir. Et cela va éprouver notre foi et va nous permettre de grandir et de faire un pas de plus. Pourquoi Abraham est devenu le père des croyants? C'est parce qu'il a passé les étapes. On commence avec le CP, cours préparatoire, on arrive à passer au CE1, CE2, CM1, on arrive en 6e, 5e, on arrive à passer le bac, on arrive à l'université et on arrive à avoir un certain niveau. Eh bien avec le Seigneur, c'est pareil. Il a commencé par un pas de foi, il a quitté sa famille, son pays et maintenant il va apprendre à grandir dans la foi. Et la vie avec le Seigneur, elle est pleine de surprises. Il y a des événements, des contretemps, des difficultés qui surgissent. Alors, quand on voit une difficulté, on dit « Seigneur, comment est-ce que tu vas nous sortir de cette difficulté maintenant? Comment tu vas faire ?» Alors, on se confie dans le Seigneur et on sait que lui, il a la solution et on peut lui faire confiance. Et puis, une autre difficulté, c'est « Et comment tu vas faire cette fois-ci, Seigneur ?» Et nous, on s'attend à Dieu. Et Dieu va bénir. Alors, la différence entre Lot et Abraham, elle est assez percutante dans ce passage. La première chose que je remarque, c'est qu'il est dit que Lot voyageait avec Abraham, mais Abraham, il voyageait avec Dieu. Et si nous voyageons avec les hommes, nous serons toujours déçus sur cette terre. Nous devons apprendre à voyager avec Dieu directement. Vous voyez, il y a eu un précédent, c'est Enoch. Dans les premiers chapitres de la Genèse, il est dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Et cela, ça plut à Dieu et Dieu le reprit alors qu'il n'avait que 300 ans, parce qu'à l'époque, on vivait jusqu'à 900 et quelques. Mais lui, à 300 ans déjà, on pourrait dire qu'il était jeune par rapport aux autres, il a été repris dans le ciel. il plaisait à Dieu. Eh bien, Abraham s'est inspiré de ses ancêtres, notamment Enoch. Et il marchait avec Dieu, et il aimait Dieu, et il bâtissait des autels à l'Éternel. Mais regardez Abraham. Regardez Lot maintenant. Lot, s'il est béni, je constate que les troupeaux de Lot ont bien grandi. Et je me suis dit, comment ça se fait que les troupeaux de Lot ont bien grandi? Mais c'est parce que Lot est au contact d'Abraham, et qu'au contact d'Abraham, il bénéficie de la bénédiction de Dieu. Mais en réalité, je cherche partout dans l'Écriture, je ne vois pas Lot prier quelque part, je ne vois pas Lot bâtir un autel à l'Éternel, je ne vois pas Lot en communion avec Dieu. Non, il suit, la Bible dit par contre, il voyageait avec Abraham. Abraham, c'est le père de la bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a une prophétie qui dit que la bénédiction d'Abraham se reportera sur ceux qui le béniront. Donc, Lot fait partie de ceux qui le bénissent et ils reçoivent en quelque sorte en retour. Mais c'est Abraham, qui est le porteur de la bénédiction parce qu'il est en communion avec Dieu. On a des exemples dans la parole. On a notamment Joseph. Lorsque Joseph est trahi par ses frères et qu'il est vendu à des Madianites, qu'il est racheté par un certain Potiphar, la Bible dit que dans la maison de Potiphar, tout ce que faisait Joseph prospérait entre ses mains. Ça, c'est la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait. Il était prisonnier, mais il était élevé dans la maison de Potiphar et il se retrouvait responsable de toute la maison de Potiphar, de ses biens, de ses œuvres. Il était élevé en dignité, on lui faisait confiance. Un petit peu plus tard, alors qu'il est accusé d'avoir porté atteinte à la femme de Potiphar, il se retrouve en prison et à nouveau on voit qu'il est mis en valeur, il est élevé par le responsable de la prison et il a des bénédictions. J'ai noté ce verset dans Éphésiens 1:3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Mais cette bénédiction, frères et sœurs, nous l'avons. Si nous sommes croyants comme Abraham, si nous croyons comme Joseph, même si on est dans la prison, même si on est dans la difficulté, même si les portes se ferment autour de nous, en réalité, la bénédiction de Dieu est avec nous. Et elle nous accompagne tous les jours de notre vie parce que c'est en Christ. C'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est accompli, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Alors c'est important de comprendre ceci. La bénédiction ne dépend pas des circonstances que nous traversons, mais elle dépend de Dieu qui accorde la bénédiction. Alors si nous croyons en Dieu qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, alors nous sommes bénis, frères et sœurs, nous avons cette bénédiction en nous et la grâce va nous accompagner. Mais c'est vrai que si vous regardez la vie de Joseph, il a été dans des situations difficiles néanmoins. Cela ne veut pas dire que la bénédiction l'avait quitté. Il a expérimenté la bénédiction de Dieu dans un cadre négatif, dans un cadre difficile. C'est ça qu'il faut remarquer. Je remarque aussi une attitude différente entre Lot et Abraham à propos de la querelle. Il va falloir gérer cette dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais on voit bien que Lot, pour l'instant, il laisse les choses se faire. Il n'intervient pas. Tandis qu'Abraham va avoir des propos apaisants. Lot, lui, il laisse les choses s'envenimer. Et pire, certains ont même le don d'alimenter la polémique et de faire enfler la difficulté de sorte que la dispute devient une bagarre. Il y a un verset de l'Écriture dans les Proverbes qui dit « Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. » Un homme querelleur va toujours alimenter la polémique, va toujours alimenter la dispute. Et frères et sœurs, que nous ne soyons pas de cette catégorie, soit de ceux qui laissent faire, ou soit de ceux qui alimentent en ajoutant du feu. Abraham cherche à procurer la paix. Il a des paroles paisibles. Il va rappeler, bien, nous avons le même père, nous sommes de la même parenté, nous n'allons pas nous disputer, nous allons chercher un compromis, nous allons ensemble pouvoir avancer. Et puis finalement, ils vont se séparer. Mais Abraham a des paroles paisibles. Et c'est ça qu'il nous faut avoir, frères et sœurs. Quand il y a les querelles, quand il y a les conflits, eh bien, cherchons à développer la paix, être des artisans de paix et communiquer l'amour. La paix, c'est tellement important. Sans la paix, il n'y a même pas de victoire possible. Il y a un amiral qui a fait cette expérience, c'était le 21 octobre 1805, lors de la célèbre bataille de Trafalgar. Il y a l'amiral Nelson qui conduisait la troupe britannique et en face, il y avait la flotte franco-espagnole. Il y avait une guerre qui se préparait. Et lorsque l'amiral Nelson a fait venir sur le pont tous les officiers pour donner les dernières recommandations avant l'assaut, il manquait un officier sur le pont. Il s'est renseigné où était cet officier, il était resté dans sa cabine, il s'est renseigné qu'est-ce qui s'est passé. Il s'était disputé avec un autre officier, il n'était pas à son poste. C'était quelque chose de grave. C'était à un moment d'une bataille. Si un officier n'est pas à son poste au moment de la bataille, mais la bataille sera perdue. Alors, il a convoqué cet officier, il a fait venir l'autre avec qui il était en désaccord, et là, sur le champ, il leur a demandé de se réconcilier avant de mener la bataille, parce qu'il n'avait pas l'intention de mener cette bataille avant la réconciliation. Ils se sont réconciliés, ils se sont mis la main dans la main, et l'amiral Nelson lui a dit, voyez, les ennemis, ils ne sont pas dans ce bateau, les ennemis, ils sont dans les bateaux en face, là-bas, c'était les adversaires. Les ennemis ne sont pas dans les frères et sœurs de l'Église. Les ennemis sont dans l'autre côté, dans l'armée ennemie du diable. Alors, grâce à cette vision d'unité que nous devons avoir, nous aussi, dans l'Église, c'est ainsi qu'ils ont remporté une belle victoire, pour eux en tout cas, la victoire navale de Trafalgar, puisque les deux tiers des navires ennemis ont été anéantis ce jour-là. Et ça a été une grande victoire pour l'Angleterre, parce que depuis, plus personne n'osa essayer de conquérir l'Angleterre par la mer. Mais cette victoire nécessitait l'unité. Et si nous n'avons pas cette parole de paix, cette parole de conciliation, de réconciliation entre les frères et les sœurs, eh bien nous allons aller au combat et nous allons perdre des frères, perdre des sœurs dans les combats. Ça va être quelque chose de terrible et nous perdrons des batailles. Alors, comme Abraham, soyons des artisans de paix. Et puis, je remarque encore une différence, c'est la prière. C'est déjà la troisième fois qu'on voit Abraham ici bâtir un autel à l'Éternel. C'est au verset 4. Abraham bâtit un autel à l'Éternel, mais jamais on ne voit Lot agir, même prier avec Abraham, jamais. Pourquoi ? Peut-être n'en a-t-il pas le désir, peut-être n'en éprouve-t-il pas le besoin, peut-être c'est un manque de temps, peut-être a-t-il des raisons propres à lui, mais néanmoins il se prive. En ne priant pas, il se prive d'une bénédiction, il se prive d'une grâce, et ça va le conduire à faire de mauvais choix. Maintenant, il n'a pas de vie de prière. Le deuxième point, c'est au verset 9, 11 et 14. Ici, nous voyons que les deux, Lot et Abraham, vont devoir se séparer. Verset 9, c'est Abraham qui dit « Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. » Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et à trois reprises, on voit cette séparation qui revient dans l'Écriture entre Lot et Abraham. Pourquoi ? Abraham, déjà, avait dû se séparer, si vous vous rappelez. Sépare-toi de la famille de ton père. Sépare-toi de ton pays, de ta patrie. Il devait déjà faire une première séparation. C'est comme ça qu'il a quitté Ur en Chaldée. Pourquoi ? Parce que son père était dans l'idolâtrie. Il servait d'autres dieux. Après cette séparation, il a dû attendre la mort de son père, il est parti pour Canaan. Et maintenant, à nouveau une séparation, vous voyez, c'est comme si les choses s'affinent de plus en plus pour montrer à Abraham qu'il est mis à part pour une œuvre, pour quelque chose de glorieux. Et si Lot n'est pas dans la même teneur spirituelle, il va falloir se séparer. Parce que Lot, Abraham ne le sait pas encore, mais Lot va être une source de difficulté. Quand on verra la suite de l'histoire de Lot, on se rendra compte qu'il va mal tourner. Mais Dieu le sait déjà. Et c'est pourquoi il est nécessaire qu'Abraham se sépare de Lot. Paul, on retrouve le même le renoncement pour la cause de Christ. Il va devoir se mettre à part de plusieurs choses. Il était juif, il dit, j'étais de tradition juive, j'avais ma piété, je respectais la loi, j'honorais les 10 commandements, je faisais toutes ces choses bien. Il était très connu, très aimé par les juifs, mais il a dû se séparer. Et il dit dans Philippiens 3, « Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte, toutes ces choses glorieuses aux yeux des hommes de l'époque, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand Christ est notre vie, toutes ces choses-là que le monde apprécie, que le monde honore, bien nous le regardons comme de la boue, parce que pour nous, ça devient secondaire. Nous sommes séparés. C'est un petit peu le sens de la sanctification, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament. Sanctifier, ça veut dire se séparer pour Dieu, être mis à part pour Dieu. Et c'est ce qu'Abraham est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre la sanctification. Il a déjà triomphé des péchés les plus grossiers. L'idolâtrie de ses parents, toutes ces choses, il a renoncé à cette vie de péché. Mais maintenant, il va devoir encore affiner dans cette vie avec Dieu par une sanctification plus poussée. Et la Bible nous montre, ça c'en est un exemple, qu'il y a toujours opposition entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Mais tout cela, ça fait partie des croyants. Parce que Lot est un croyant charnel et Abraham est un croyant spirituel. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. Il y a un problème, il y a une tension qui va surgir entre le charnel et le spirituel. Lot, en fait, représente le croyant charnel parce qu'il va vivre sa vie selon ses désirs. Non pas selon la volonté de Dieu, mais il va faire ce qu'il a envie, ce qu'il aime, ce qu'il voit. Il va voir Sodome et Gomorre, il va dire « c'est une belle ville, je vais m'installer là-bas ». Il ne prie pas, il ne cherche pas ce que Dieu veut pour sa vie, donc il va faire des erreurs, il va pécher. Abraham, lui, représente le croyant spirituel qui aime Dieu, qui s'attache à Dieu, qui veut rester dans les promesses de Dieu. Mais il y a deux possibilités. Soit le charnel devient spirituel, c'est ce que Paul recommande. Si on est parti charnel, on peut aboutir au spirituel. Et si on n'arrive pas, il va y avoir séparation au bout d'un moment entre le croyant spirituel et le croyant charnel. Parce que Lot aurait été une épine pour Abraham pour avancer. Il ne pouvait pas rester avec Abraham, ce n'était pas possible. Soit il devait changer d'attitude, soit il y allait y avoir séparation. Paul explique ainsi dans 1 Corinthiens 3, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, des enfants en Christ. » Paul fait donc la distinction entre ceux qui sont spirituels et c'est ce à quoi nous devons chercher à aboutir, être spirituel, comme Abraham. Mais il y a aussi ceux qui sont charnels. Ceux qui sont charnels, dit Paul, ils sont limités au lait, aux choses élémentaires de la parole, mais ils ne peuvent pas avancer vraiment avec Dieu. Ils vont chuter, ils vont se ramasser, ils ne vont pas faire des choses pour Dieu vraiment. Mais il dit, ceux qui sont spirituels accèdent à une nourriture solide et ils vont être comme des pères, comme des mères spirituelles dans l'œuvre de Dieu et ils vont faire de belles choses pour Dieu. Et le problème, c'est que celui qui est charnel n'est pas conscient qu'il est charnel et il va juger les autres et il va s'enfermer dans ses raisonnements. Alors Paul désire que nous arrivions à cette maturité, que nous passions du stade de Lot à celui d'Abraham, à celui qui fait confiance à Dieu pour les choix, qui dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, c'est plus facile d'être charnel. Mais attention, combien les fruits vont être amers pour Lot par la suite. C'était facile de choisir la plaine, c'était facile d'aller planter ses tentes jusqu'à cette ville-là, c'était des grands pêcheurs, ça a influencé toute sa vie. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Il était plus difficile de faire la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais néanmoins, c'était plus porteur et ça a amené Abraham beaucoup plus loin dans la vie avec Dieu. Jérémie l'exprime d'une autre manière. Le prophète Jérémie dit, à cause de ses souffrances, parce qu'il annonçait la parole de Dieu et le peuple ne voulait pas de Dieu. Il dit ceci, donc c'est une promesse. Il a une promesse de Dieu dans Jérémie 15, 19. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. » Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et je te tiendrai devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Là, on est dans le même cas de figure. On a des croyants charnels qui ne veulent pas écouter vraiment la parole de Dieu, obéir à Dieu. Et Jérémie est spirituel, il sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, donc il s'est séparé nécessairement, comme Abraham doit se séparer ici de Lot, nécessairement il se sépare, mais Dieu lui dit, c'est pas toi qui dois revenir vers eux, c'est eux qui doivent monter jusqu'au spirituel, c'est au charnel d'accéder au spirituel. Et ce n'est pas au spirituel de retomber vers le chrétien charnel pour faire sa volonté et pas la volonté de Dieu. Mais voyez, cette séparation, vous la retrouverez à de nombreuses pages de l'Écriture parce qu'elle est nécessaire. Ennemis du peuple de Dieu, les Moabites et les Ammonites descendent directement de Lot. Lot va être donc une source d'épines, de difficultés pour tout l'ensemble du peuple de Dieu par sa désobéissance, par son manque de consécration, par son manque de foi. Alors je reviens à une troisième partie, les deux choix différents. Il y a le choix de Lot d'un côté et le choix d'Abraham de l'autre. Lorsqu'Abraham laisse le choix, en fait, il va laisser Dieu diriger toute chose. Et on voit qu'Abraham va saisir, plutôt Lot va saisir l'opportunité pour faire le choix de la ville de Sodome et Gomorrhe immédiatement. Le choix de Lot se base donc sur l'apparence. Il ne se laisse pas conduire par Dieu ici. La Bible dit, c'est au verset 10, « Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain, était entièrement arrosée et il va y voir comme un jardin de l'Éternel. » Alors, on arrive toujours à justifier nos choix. Vous voyez, même quand on est croyant, on est charnel, on fait des mauvais choix, mais on arrive à justifier spirituellement ces choix en disant « Mais c'est comme un jardin de l'Éternel. » Pourtant, c'était mauvais. C'était quelque chose de négatif. Et Lot ne tient pas compte de l'avis de Dieu au verset 13. « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Donc, ces choix sont orientés à pécher, ses choix vont amener la ruine sur toute sa famille. Nous savons que sa femme va être transformée en statue de sel, que ses deux filles vont suivre les mœurs qu'elles ont apprises dans la ville de Sodome et Gomorrhe, et ça va être une catastrophe pour toute cette famille de Lot. Comment sommes-nous arrivés là ? Bien parce que Lot est vulnérable, parce que nous sommes faits de chair et d'os, nous avons encore une fragilité, et nous devons prier quand nous prenons une décision. Si nous ne prions pas, à coup sûr, nous prenons des mauvaises décisions. Nous prenons des décisions selon ce que nos yeux nous disent, selon ce que notre entendement nous dit. Mais si nous prions le Seigneur, peut-être il va nous dire « Ah, ce n'est pas la bonne décision. » Et là, nous n'aurons plus la paix de Dieu. Et c'est là qu'il faut arrêter et prendre la bonne décision. Vous voyez, Samuel, lorsqu'il a dû choisir le futur roi d'Israël, il ne savait pas qui c'était, mais il savait que c'était dans la maison d'Isaïe. Et son premier choix s'est porté sur l'aîné Éliab, il le représentait bien. Et peut-être on aurait fait le même choix, on aurait dit ça, ce frère il est bien, on pourrait vraiment lui confier quelque chose, il a la stature, on voit qu'il a quelque chose. Et c'est un choix humain. Et on voit que même si Samuel il aime Dieu, même s'il est prophète et il connaît Dieu et tout, mais naturellement s'il écoute son cœur, s'il écoute son intuition, il va faire un mauvais choix. Il est sur le point de choisir Éliab pour le futur roi d'Israël, mais Dieu ne veut pas cela. Heureusement que Dieu parle à son cœur, lui dit non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Mais encore faut-il prier, encore faut-il être à l'écoute de Dieu. Si Samuel à ce moment-là n'avait pas écouté Dieu, ça aurait été une catastrophe, un choix catastrophique. Éliab était orgueilleux, il se serait retrouvé à la suite de Saül et ça aurait conduit le pays au désastre. C'était un temps important, il fallait écouter Dieu, il fallait prier. Et puis Dieu a conduit Samuel, deuxième, troisième, jusqu'au dernier enfant, c'était David. Et effectivement, la confirmation est venue dans son cœur. Oui, il fallait que David soit oint pour être roi. Mais si nous n'écoutons pas Dieu, eh bien à chaque fois, il aurait fait fausse route. Alors en avançant, nous devons soumettre nos choix à Dieu. Il faut quand même prendre la marche. Je dis ceci parce que quelquefois, on attend toujours que Dieu dise, que Dieu dise, que Dieu dise, et on ne fait rien. Or, on voit dans la Bible que les apôtres se sont mis en marche, mais qu'ils ont demandé à Dieu de les diriger et de confirmer sa parole au fur et à mesure qu'ils avançaient. Il ne suffit pas d'attendre et de ne rien faire. Il faut avancer. Les apôtres se sont donc mis en marche et le Saint-Esprit les a repris en disant « Non, ce n'est pas la direction que je vous demande de prendre. » Ils étaient partis pour l'Asie. Empêchés par le Saint-Esprit d'aller en Asie, ils ont été réorientés. Alors, ils ne savaient pas s'il fallait aller en Bithynie et là, le Saint-Esprit ne leur permit pas. Alors, ils étaient bloqués à Troas, ils priaient « Seigneur, où devons-nous aller ?» Et une vision, un Macédonien leur dit « Venez, secourez-nous. » Et donc, ils sont allés à Philippe. Mais quelle bénédiction quand ils arrivent à Philippe, la grâce de Dieu les accompagne. Première conversion, Lydie, la femme de pourpre. Un peu plus loin, une femme pythonisse est délivrée d'un mauvais esprit. un peu plus loin, le geôlier et toute sa famille se convertissent, il y a une œuvre de Dieu qui se fait, parce qu'ils sont partis, mais ils ont soumis les choix qu'ils faisaient à Dieu. Eh bien, ça, c'est la vie spirituelle avec Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce. Parce que si nous faisons des mauvais choix, aujourd'hui, nous pouvons payer des conséquences. Un choix qu'on a fait il y a 10 ans va avoir des conséquences, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, si nous avons fait un mauvais choix. On n'a pas prié, on n'a pas compris la volonté de Dieu, on a pensé que c'était ça, ce n'était pas ça, on s'est trompé et on est poursuivi par cette difficulté. Alors, venons au Seigneur, demandons-lui pardon, reconnaissons notre erreur et que le Seigneur nous fasse grâce pour repartir et aller de l'avant. On peut tous se tromper, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est reconnaître nos erreurs et surtout écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Un des grands éléments qui va nous aider pour faire la volonté de Dieu, c'est la paix de Dieu. Si nous n'avons pas la paix de Dieu, c'est déjà que Dieu est en train de nous avertir. Tu es sur une mauvaise route, tu fais une mauvaise direction. Là, je ne vais pas t'accompagner, tu vas faire des erreurs, etc. Si nous n'avons plus la paix, déjà le Saint-Esprit est en train de nous parler à notre cœur. Et si nous avons la paix, c'est aussi un signe que Dieu approuve cela. Alors Abraham se laissait ainsi conduire par Dieu à chaque étape. Il a vécu ces séparations nécessaires. Quelquefois, on peut se dire, mais pourquoi c'était mon neveu? Et il avait de l'affection pour lui. Et d'ailleurs, un peu plus loin, au chapitre 14, c'est Abraham qui va aller sauver son neveu qui est en difficulté. Abraham aime Lot, mais Dieu veut cette séparation. Dieu veut cette séparation parce qu'il sait qu'Abraham est appelé à quelque chose et Lot n'a pas choisi de marcher pleinement dans les voies de Dieu. Eh bien, il va vivre sa vie de rétrogradation en quelque sorte. Il va s'éloigner de Dieu. Alors à ce moment-là, lorsqu'il y a eu cette séparation, on pourrait penser qu'Abraham va être déçu, qu'il va être peut-être triste dans son cœur en disant ben, « Voilà, j'étais déjà parti, mon père est mort à Charan, maintenant c'est mon neveu Lot qui se sépare. » On pourrait se penser qu'il va être triste maintenant, ça va être encore plus difficile. Mais non, le Seigneur va consoler son cœur. Et au contraire, on voit qu'à partir de ce moment-là, la parole de Dieu retentit à nouveau, c'est bien précisé, après que Abraham se fut séparé de Lot. Alors la parole de Dieu dit à Abraham, « Je t'ai placé dans ce pays, tu peux le parcourir du sud à l'est, à l'ouest, ce pays t'appartient. » Et il va être consolé et la promesse de Dieu va venir dans son cœur. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Et ça c'est un enseignement pour nous. C'est que Abraham va commencer à posséder par la foi un pays qu'il ne possède pas encore matériellement. Mais nous pouvons, nous aussi, recevoir par la foi des choses que nous n'avons pas encore, finalement, qui sont encore à venir. Jésus nous enseigne cela dans Marc 11, 24. Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'ai dit au présent le premier verbe, mais ce n'était pas une erreur finalement. Parce que dans l'original, c'est bien dit « tout ce que vous demandez, c'est bien au présent ». Dans l'original, vous avez « tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu ». Donc vous avez le présent d'abord, « croyez que vous l'avez reçu », c'est le passé, vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir, ça c'est le futur. Dans ce verset, on retrouve les trois temps de Dieu. Le présent, passé, futur. Et pour Dieu, tout est possible à ce moment-là. Vous recevez en même temps présent, passé, futur, dans la même prière, tout y est. Ça veut dire que si on l'a déjà reçu, c'est certain, on le verra s'accomplir. La Bible ne dit pas quand, mais spirituellement, c'est possible de recevoir déjà maintenant et de dire, en son temps, le Seigneur le manifestera. Mais c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Il a reçu dans son cœur un pays, il dit, je l'ai par la foi, je marche dans le pays, c'est mon pays, il va à gauche, il va à droite, il va au sud, il va au nord, c'est son pays, c'est le pays que Dieu lui a donné. Mais concrètement, il le verra s'accomplir, c'est sa descendance et la promesse est pour ses enfants. Et c'est sa postérité qui le possédera littéralement. Mais en tout cas, lui, déjà fait cette expérience que Jésus explique dans Marc 11. Vous demandez en mon nom, eh bien, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir dans l'avenir. C'est ça, pour Dieu, c'est possible d'avoir déjà reçu sans encore avoir vu l'accomplissement du miracle. On va prier quelques instants. En conclusion, on a vu une situation qui paraît très mal partie, très difficile pour Abraham. Il aurait pu être jaloux même de tout ce que Lot avait choisi, parce que Lot avait choisi quand même la meilleure part. C'était la plaine bien arrosée du Jourdain. Il y avait des bénédictions qui étaient là, qui lui tendaient les bras. Alors il aurait pu dire, ben voilà, j'ai laissé le choix à l'autre, et puis il a pris la meilleure part, il ne m'a même pas laissé choisir. Il est parti avec le meilleur. Mais voyez, les apparences sont trompeuses. En apparence, c'était le meilleur, et Lot a regardé à ce qui frappe les yeux. Lui, il a cru qu'il avait vraiment choisi la meilleure part. On pourrait dire qu'il avait fait la meilleure affaire. Peut-être qu'il allait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Il avait saisi l'opportunité. Et en réalité, il ne le sait pas, mais c'est pour lui une occasion de chute qu'il a embrassée ici. C'est un mal pour Abraham, mais qui a été finalement un bien pour lui. Et quelquefois, nous sommes victimes. Nous avons l'impression qu'on ne nous a pas laissé le choix. L'autre a pris la meilleure part, il ne nous a pas laissé notre place. Eh bien, figurez-vous que c'est un mal pour un bien. Et que Dieu va changer cela pour sa gloire. Abraham, en fait, ça pouvait considérer difficile. C'était la montagne, c'était le côté peut-être rugueux, négatif. Il a laissé son sort entre les mains de Dieu. Il n'a pas cherché à dire, bon, je vais aller moi absolument ici. Il a laissé Dieu conduire. Et Dieu a conduit toute chose. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et si nous observons la parole de Dieu, nous disons, « Seigneur, je recommande mon sort entre tes mains. Peut-être je suis victime d'un mauvais choix ou quelqu'un ne m'a pas laissé la possibilité de m'exprimer. Je n'ai pas pu régulariser. » Eh bien, vous êtes victime, vous êtes injustement traité. Mais le Seigneur, si vous recommandez votre sort entre ses mains, il peut tourner la situation encore une fois et dire, « Abraham, il va venir consoler son cœur, il va venir consoler votre cœur et dire, « Tu es mon enfant bien-aimé, je ne t'ai pas oublié, j'ai un plan pour ta vie. »